Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge jusqu'à 14h. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des femmes et des hommes qui bâtissent, construisent et créent le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. 14 sur 1000 dans le monde, troisième université européenne derrière Cambridge et Oxford. Et oui, je parle d'une université française. C'est Paris-Saclay qui a fait sensation cet été en entrant au célèbre classement de Shanghai. C'est simple, hein. Jamais une université française avait atteint un tel classement. Alors tout simplement, quelles sont les recettes de Paris-Saclay? Sa présidente Sylvie Retailleau est notre invitée jusqu'à 14h.
À la une en effet Emmanuel, les universités se réinventent, même celles qui existent depuis plus de 800 ans, comme par exemple la faculté de médecine de Montpellier, la plus ancienne fac de médecine en exercice au monde. C'est notre saga du jour, rendez-vous à 13h30.
Il paraît que c'est parfois plus compliqué que le grand oral. Chaque jour, une entrepreneure ou un entrepreneur a 1 minute 30 pour tenter de vous convaincre. Et pour convaincre notre grande patronne du jour, aujourd'hui, Étienne Courtois et son projet de gourde éco-responsable sera sur le grill.
Demain au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler. Chaque jour en fin d'émission, on découvre une entreprise qui s'adapte dans notre société en pleine transformation. Recruter des jeunes en décrochage, les former, financer leur permis de conduire avec un CDI à la clé, c'est ce que propose l'entreprise Socotec.
Allez, bienvenue à vous tous dans La France bouge, on est ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
La recherche, c'est l'avenir, c'est ce qu'a déclaré Jean Castex, le Premier ministre, justement à l'université de Paris-Saclay. C'était en tout début de semaine, c'était lundi. Alors Paris-Saclay, c'est donc l'une des meilleures universités et centres de recherche au monde, d'après le classement de Shanghai. L'université se classe à la 14e place dans ce palmarès de référence. Et on se pose donc cette question aujourd'hui, Elisabeth, comment les universités se réinventent?
Bonjour Sylvie Retailleau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans notre studio à Europe 1. Vous êtes la présidente de l'université de Paris-Saclay. Saclay, ce sont 48 000 étudiants. L'université rassemble 3 universités, 4 grandes écoles sur 4 départements en région parisienne. Je vous donne quelques chiffres. 9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, 14 campus, près de 300 laboratoires. Jamais une université française avait atteint un tel classement. Première question, c'est quoi le secret de votre réussite?
Alors je crois que le secret, c'est aussi une dynamique globale en France sur l'ensemble des universités et l'enseignement supérieur et la recherche française. Et finalement, c'est cette dynamique, cette co-construction. Vous avez cité les partenaires aujourd'hui qui sont inclus aujourd'hui, qui sont membres de l'université Paris-Saclay. Et c'est cette co-construction depuis des années qui, en fait, finalement, a consolidé une fragmentation du modèle de l'enseignement supérieur et de la recherche française qui est spécifique et sur lequel on essaye de tirer les atouts en essayant de finalement mutualiser, travailler encore plus ensemble et rassembler les communautés scientifiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le résultat de cette matérialisation, de cette consolidation.
La réponse, c'est véritablement le fait de se rassembler. Parce qu'on citait 3 universités. Jusque-là, vous vous battiez les unes contre les autres pour attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs étudiants. Là, finalement, vous créez un gros pôle de compétences. C'est ça, la clé?
Alors, c'est ça dans le sens de mutualiser et de rendre une offre cohérente et de finalement tirer parti de nos forces recherche et formation, parce qu'il est vrai que le système français, hein, même au national, par rapport aux parents, aux étudiants et alors encore plus à l'international, est souvent assez difficile à comprendre. Donc il y a cette notion de visibilité, de lisibilité, mais c'est pas une notion de grosseur. On associe souvent, alors le classement de Shanghai est d'abord un classement recherche, chaque classement a ses critères, voilà, mais c'est pas que la grosseur.
Augustin de Romanet, le patron d'aéroports de Paris, dit, lui il est souvent classé dans les derniers aéroports au monde, il dit moi j'ai regardé le classement, j'ai regardé ce qu'ils prennent en compte, puis j'essaye de faire mieux pour au moins remonter un peu. Est-ce que vous avez fait un peu pareil en disant c'est un classement de référence, il est peut-être pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais il faut qu'on y soit, justement pour montrer que notre modèle est le bon?
Alors oui, il faut qu'on y soit. Tout à fait, parce que pour montrer aussi la visibilité, et je pense que c'est important que la France, et on est plusieurs universités à y être, reste dans les standards internationaux. Ceci dit, un classement, c'est pas l'alpha et l'oméga, et en tout cas à Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay n'a pas été faite pour être bien classée à Shanghai, mais notre potentiel, et pour moi l'institution, c'est sa responsabilité de consolider les chiffres finalement pour y être.
Alors, consolider ce qui était fragmenté, mutualiser les atouts, c'est ce que vous nous dites concernant votre secret secrets de réussite. Qu'est-ce que vous avez mis en place de façon concrète pour être meilleur? Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on puisse bien comprendre?
Alors, on a mis en place déjà l'offre de formation et on a fait un projet qui a abouti à une structure, une université, mais on est rentré par le projet formation et recherche en mettant l'étudiant au centre et la recherche au centre. Et globalement, on avait chacun, comme vous le disiez, un master de physique et qui disait qu'il attirait. On a un seul master de physique dans lequel, par exemple, et ceci dans toutes les disciplines, dans lequel il y a multitude de parcours, mais avec des vraies passerelles, avec des vraies spécificités de parcours, à la fois territoriales et à la fois scientifiques. Donc c'est cette visibilité et je dirais cette lisibilité de la formation qu'on a essayé de faire ensemble, par exemple.
Quand on pense à université, on pense à étudiants. On verra un petit peu plus tard dans cette émission comment vous organisez pour cette rentrée universitaire. Moi, j'ai lu un chiffre qui m'a impressionné. Quand on l'a partagé avec Elisabeth, on s'est dit c'est le bon chiffre. J'ai vu que vous pesiez à vous tout seul 15% de la recherche française. C'est ça ?
13%, mais
ah
oui.
Ah ouais, voilà, moi j'avais arrondi.
Tout à fait. Donc on pèse.
Mais c'est impressionnant ça.
Alors c'est impressionnant, c'est toute une histoire, c'est tout un travail de notre communauté scientifique. Et effectivement, on pèse avec les établissements que vous avez cités, mais une des originalités de ces universités de recherche intensive en France, c'est le poids aussi et la collaboration avec les organismes nationaux de recherche. Donc c'est vrai que nos laboratoires sont d'universités, organismes et une forte impact sur la recherche.
Eh bien, on va continuer à parler de ces universités innovantes. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h16.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et nous sommes ravis avec Emmanuel d'être avec vous jusqu'à 14h dans la France bouge avec, on va le dire, notre patronne du jour, parce que vous êtes une patronne, Sylvie Retailleau, la présidente de l'université Paris-Saclay. On parle de nos universités aujourd'hui sur Europe 1, des universités qui se réinventent et qui innovent, Emmanuel.
Alors l'université, c'est aussi beaucoup d'informations, beaucoup de choses à gérer quand on est étudiant, les notes, l'agenda, les demandes de stage. Et face à cela est né, alors nous on a trouvé que c'était dur à prononcer, mais je pense que ça doit être très logique comme nom, APSCO. Et APSCO est né il y a 6 ans, dédié aux universités pour simplifier et centraliser justement toutes ces tâches.
Bonjour Victor Vacrenier.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Vous êtes le cofondateur d'APSCO, A-P-S-C-H-O, c'est vrai que c'est un peu compliqué. dès que vous avez entendu qu'il fallait que les universités aient un ou une vice-présidente chargée du numérique, là vous avez dit, il y a quelque chose à faire, le numérique va avoir toute sa place dans les facs.
Effectivement, Elisabeth Assayag, ça fait 6 ans qu'on existe et c'est peu ou prou l'époque que vous citez, Geneviève Fioraso, qui était la ministre à l'époque sous François Hollande, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui a publié un décret pour amener la nomination d'une vice-présidente du numérique dans chaque établissement. Et depuis 6 ans, on a monté cette société, on est dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mmh. Et on travaille avec une centaine d'établissements, alors publics, privés, donc des écoles de commerce, d'ingénieurs, des universités. On travaille d'ailleurs avec des composantes de Paris-Saclay, dont Mme Retailleau, ici présente, est la patronne, je prends votre terme.
C'est vrai.
Et on est en fait devenu le partenaire de référence des établissements dans leur plan de transformation numérique et particulièrement sur les applications.
Alors nous, on aime bien être concret dans la France bouge, de façon très concrète. L'étudiant, il trouve quoi? Son emploi du temps, ses notes? Dites-nous tout.
Exactement. Pour être très concret, l'application BI, elle va servir à l'établissement comme à l'étudiant.
Alors, du côté de l'étudiant?
Du côté de l'étudiant, quand il est en dehors de sa salle de cours, il va chercher la prochaine salle dans laquelle il doit se rendre, son campus, le menu de la cafette, une offre de stage ou simplement le plan autour de lui. Donc, toutes ces informations-là qui sont souvent difficiles à trouver, elles sont centralisées dans une app. Concrètement, l'étudiant, il a tout le campus dans sa poche.
Donc tout est centralisé, ça facilite la vie des étudiants puisqu'ils ont un portable, donc ils sont en lien direct avec leur université ou leur école. Du côté des écoles et des universités, quel est l'intérêt d'utiliser votre application?
Bien, le même que pour les étudiants. Leurs intérêts, ils sont communs, leur vision converge, ils doivent favoriser la réussite des étudiants. Et donc côté établissement, ce sont nos clients, nous les établissements. Mmh. Et on développe une application.
C'est eux qui vous payent.
Exactement.
Voilà, on a la même idée avec Elisabeth.
On développe une application par établissement. Et donc ces établissements-là, ils ont besoin d'informer, d'alerter, de communiquer. Bref, ils ont besoin d'interagir avec leurs étudiants. Et quoi de mieux que le portable? C'est le terminal préféré de l'étudiant. Et donc, ce que nous, on fait pour les établissements, c'est que l'étudiant, en bout de chaîne, il est au bout d'un entonnoir. Il a une app pour plein de services. Ce que l'on fait, nous, on est au départ une boîte d'ingénieurs. On va prendre tous les services de l'établissement qui sont un peu éparpillés et on va tous les centraliser.
Donc la bibliothèque, la cantine, le campus,
on en a 25 services.
Les amphithéâtres, est-ce qu'ils sont libres, pas libres, tout ça.
C'est exactement
tout.
Ça. Et
est-ce
tout
que le Covid change aujourd'hui quelque chose? Est-ce que ça vous a obligé à inventer de nouveaux modèles parce qu'on va être de moins en moins en présentiel ou potentiellement de moins en moins en présentiel?
Ça a d'abord, je pense, eu un gros impact sur la perception du numérique. Certains établissements ont une confirmation, d'autres une prise de conscience. Ceux qui ont investi dans le numérique depuis longtemps, qui ont mené des plans de transformation ambitieux, ils ont eu la confirmation qu'ils allaient dans la bonne direction. Et ça a été de l'autre côté, pour certains établissements, une prise de conscience, de se dire, on ne peut plus avoir ces positions conservatrices ou dogmatiques vis-à-vis du numérique, on ne peut plus faire sans le numérique, et particulièrement application mobile. Vous le disiez, le confinement, du jour au lendemain, vous avez des milliers, centaines de milliers, des millions, à peu près 3 millions en France, d'étudiants qui se sont retrouvés sur le campus, chez eux, dans leur famille, et à partir du moment où ils ferment leur ordinateur pour arrêter de suivre leur cours, il n'y a plus de moyen de rester en contact avec son établissement. Donc le mobile, dans ce contexte-là, maintenant revêt, si ce n'était pas déjà le cas, d'une importance...
Ça devient essentiel, c'est-à-dire c'est comme le cahier et les stylos.
Exactement, ça devient essentiel parce que côté étudiant, il y a deux besoins qui sont apparus de façon quasiment instantanée au moment du confinement. Le besoin d'avoir des cours à distance, et le besoin d'avoir accès à ce qu'on appelle un campus dématérialisé. Les cours à distance, on citait Madame Fiorazzo tout à l'heure, elle avait dit à l'époque, c'était son objectif, en 2017, tous les étudiants devront avoir accès à des cours dématérialisés dans leur cursus. On est en 2020, c'est fait.
C'est fait. C'est en train de se faire. Justement, Sylvie Retailleau, je rappelle que vous êtes la présidente de l'université Paris-Saclay. J'imagine que le Covid a changé énormément de choses pour vous aussi. Ce genre d'application numérique, semble-t-il, vous travaillez en commun, c'est indispensable aujourd'hui pour être en lien avec ces chercheurs et ces étudiants.
Oui, le lien numérique est indispensable. On l'a vu et je suis assez d'accord, il y a eu cette dynamique et ce changement de vitesse.
Cette accélération.
Cette accélération que nous a quelque part imposée. Alors, il faut savoir, cette imposition qui a fait quand même des modes dégradés parce qu'on a vu la mobilisation des étudiants, des enseignants-chercheurs pour être en capacité de faire passer leur examen et de ne pas perdre ces années. Mais c'est vrai que ce sentiment un peu en mode dégradé doit maintenant être, je dirais, plus guidé, plus fait volontairement et de façon accompagnée. Et je pense que cette vitesse supérieure sera passée et de façon non pas dégradée, mais au contraire positive pour la réussite de nos étudiants et leur vie de campus, d'autant plus sur un campus, comme vous l'avez dit, à 14 sites.
Et dans ce contexte de Covid, vous parliez des étudiants. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de faire venir des étudiants étrangers à Paris-Saclay?
Alors oui, aujourd'hui on a cette difficulté étudiant ou autre de mobilité des étrangers. Et effectivement, on a mis en place, alors on a de façon intrinsèque une augmentation de l'amélioration de l'accueil d'étudiants étrangers dans nos universités françaises.
Mais il y a le campus
numérique. Que là, voilà, le numérique. Et là, avec le Covid, on a nos formations de master très internationales en anglais qui accueillent beaucoup d'étrangers. Beaucoup offrent de l'enseignement en hybride et en numérique, voire certaines tout le premier semestre pour
anticiper.
De
façon
anticiper.
Concrète, disons que je suis, on va prendre un pays au hasard, je suis colombien. Je suis aujourd'hui à Bogota, en Colombie, à suivre mes cours.
Pour certaines formations de l'université, oui, c'est possible. Certains sur les premiers mois, d'autres jusqu'en décembre, ils ont prévu un enseignement à distance pour ces étudiants étrangers.
Pour l'instant,
pas tous, mais certaines formations.
Pour l'instant, vous avez décidé jusqu'en décembre. J'imagine que vous suivez la situation sanitaire au jour le jour et vous êtes prêt aussi à vous dire que peut-être que ce sera en novembre ou mars. Enfin,
exactement.
On ne sait pas ce qui va se passer.
Et on améliore quand même l'accueil en présentiel parce que ça nous semble aussi important.
Justement, on va voir dans un instant comment se passe quand même. En vrai, si je peux dire, la rentrée étudiante. Un grand merci à vous, Victor Vacrenier, fondateur donc d'APSCO, d'être venu avec nous dans cette France Bouge.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et aujourd'hui, on parle université qui se réinvente. Et pour cela, on est avec Sylvie Retailleau, la présidente de l'université Paris-Saclay. On va encore le redire au moins une fois. L'université la mieux notée de l'histoire de la France dans le fameux classement de Shanghai, qui ne date que de 1993. Mais il n'en reste pas moins que c'est une première française. Et ça, c'est très important. On parlait de la rentrée des étrangers, qui sont donc difficiles à faire venir à cause des normes sanitaires. On va regarder la rentrée, notamment des Français, là, en ce moment même à Paris. Parce que ça se prépare en ce moment. Comment vous allez réussir à la faire avec les normes sanitaires qui pourraient peut-être en plus être renforcé vendredi, bah demain.
Alors déjà, je ne parlerai pas au futur, mais au français, au présent, mais parce que les universités, la plupart, sont rentrées depuis la semaine dernière. Hein, voilà, donc moi, mes rentrées, ça se fait la semaine dernière et cette semaine, donc on est en cours. On a accueilli nos étudiants en présentiel, c'est-à-dire fortement en présentiel, parce que ce soit des bacheliers ou d'autres étudiants, ils ont quand même été très pénalisés et souffert de cette distanciation forte. Et c'est le lien social que crée aussi l'université. Et puis, petit à petit, au bout de 2-3 semaines, on va mettre en œuvre l'hybridation avec à peu près 50% de présentiel lorsque c'est possible dans les filières. Port du masque obligatoire. Les TP sont en présentiel. Les TD, là où il y a de l'interaction. Et on aménage les cours.
Mais pour vous, ce qui a été capital au démarrage, c'est que les gens se rencontrent, créent une forme de petit lien pour après être capable éventuellement de renforcer l'hybridation, comme vous dites.
C'est ça, c'est capital, c'est vraiment ce lien social et cet enseignement. Hein, rien ne vaut un enseignement quand même en présentiel de base. Et l'hybridation doit venir soit en accompagnement, soit en complémentarité, soit à l'intérieur, mais surtout pas le remplacer. Et je dirais que ce contact, cette présentation, et puis identifier les profils d'étudiants et savoir comment on va gérer l'ensemble des filières.
Alors à Paris-Saclay, vous êtes extrêmement bien organisé, on l'entend. Il y a de nombreuses universités françaises qui continuent tout de même à avoir des difficultés. N'y a-t-il pas une forme de système à deux vitesses concernant les universités ? Il y a Paris-Saclay, il y a aussi la Sorbonne, tout ça c'est bien coté. Mais faut-il tout concentrer sur la recherche pour obtenir de telles notes et figurer dans de tels classements ?
Alors non, il ne faut pas tout concentrer. On a besoin au niveau national d'un réseau. Les universités travaillent entre elles, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir avoir une différenciation, assumer une certaine différence. Différenciation ne veut pas dire, et il faut combattre la notion de deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a besoin pour nos étudiants d'un maillage des universités en France, et la recherche doit être présente dans toutes les universités. L'université, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Ce qui est la différence entre Sorbonne, Paris-Saclay et d'autres universités, c'est le spectre très large de recherche sur toutes les disciplines, alors que d'autres sont très bonne, mais plutôt dans des thématiques de niche.
Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une sélection naturelle qui s'opère ? Les meilleurs élèves ont envie obligatoirement de venir aujourd'hui à Paris-Saclay. Les chercheurs, les meilleurs de France, ont envie de venir à Paris-Saclay. Donc même si je comprends tout à fait l'humanisme que vous avez en vous de dire tout le monde doit être au même niveau,
j'ai
aujourd'hui,
pas dit ça, mais...
vous avez même une forme de sélection naturelle. Est-ce que vous acceptez ce terme, Sylvie Retailleau ?
Et on l'a depuis longtemps. C'est pas non plus nouveau, cette sélection naturelle, je dirais cette sélection, mais il est important de dire que chacun a un rôle. Et c'est pour ça que je ne dis pas que tout le monde est pareil. Je pense que chacun a un rôle différent et qu'on a vraiment besoin de ce maillage. Après, qu'il y ait une forme d'excellence, et je manipule ce mot avec prudence, dans des universités, c'est notre responsabilité, c'est important. Et Patrick Curmi, président de l'université d'Evry, dit toujours que Paris-Saclay, c'est la tête dans les étoiles et les deux pieds dans le territoire. Et je crois que ça la caractérise très bien.
Alors, votre université, elle existe depuis 1971. Au début, elle s'appelait l'Université Paris-Sud. Et depuis le 1er janvier 2020, dernier, elle s'appelle l'Université Paris-Saclay. Elle est, elle aussi, marquée par une histoire, hein, celle des physiciens Frédéric et Irène Joliot-Curie. Est-ce qu'une université qui a des résultats et une aussi bonne image, c'est aussi parce qu'elle a une histoire ?
Oui, je crois que c'est ce que je disais au début, ça ne se décrète pas, ça ne se crée pas d'un coup de baguette magique. C'est vraiment toute une histoire, un travail des communautés. Donc c'est vrai qu'à Paris-Saclay, c'est la fusion entre Paris-Sud et ce qu'on appelait avant les communautés d'université, en intégrant 4 écoles et ensuite la fusion avec 2 universités.
Donc,
c'est
et ça vous avez su conserver le meilleur de chacune.
Oui, le meilleur et je dirais une dynamique globale de co-construction pour le futur.
Alors c'est parfois un gros mot même quand on parle avec les patrons d'université, le lien avec les entreprises. Quand on a tant de recherches aujourd'hui chez vous, c'est indispensable, un, pour vous financer, et puis deux, pour trouver des débouchés industriels à ce que vous faites.
Et l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc ce n'est pas du tout un gros mot pour Paris-Saclay, et de moins en moins pour les universités, hein, c'est quelque chose que l'on fait. Et c'est vrai qu'une des particularités aussi de l'université, c'est cette notion de connexion avec le tissu, très forte avec le tissu industriel, physique, géographique, parce qu'on est sur des campus dans lesquels il y a ces industriels, mais aussi les PME et les petites entreprises.
Et vous êtes
c'est
en
très
contact
avec eux. Et on est très en
pour
contact.
Faire des ponts.
Et on est très en contact sur les laboratoires, la recherche, la valorisation et la formation pour l'insertion et l'employabilité de nos étudiants.
Est-ce que là, avec la crise, vous avez les premiers effets, impossible de trouver des alternances et beaucoup moins de débouchés?
Alors, nous, on ne voit pas ça. On avait cette crainte et c'est clair qu'on s'y attend et qu'on y travaille. Là, cette rentrée, l'alternance, l'apprentissage, les premiers bilans qu'on fait, finalement, il y a en même temps une réforme de l'apprentissage qui s'est faite récemment. Et finalement, les filières d'apprentissage, en tout cas chez nous, ont très bien ouvert et les contrats sont pour
l'instant là. Vous avez l'impression
là
que les entreprises jouent le jeu avec la réforme de l'apprentissage?
Actuellement, avec la réforme de l'apprentissage, oui, alors bien sûr.
Malgré le contexte sanitaire.
Il y a une dynamique qui est meilleure que ce qu'on avait pu craindre avant les vacances.
Bah tiens, vous nous donnez une idée, on va faire une émission sur l'apprentissage dans les jours à venir.
Très bonne idée.
On vérifiera ce que vous êtes en
très
train de nous dire.
Alors là, on va se tourner vers une autre université, si vous le voulez bien, Sylvie Retailleau, la faculté de médecine de Montpellier.
Oui, bonjour professeur Thierry Lavabre-Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes par téléphone, vous êtes professeur d'hématologie, président du comité de pilotage justement des 800 ans de la faculté, délégué de l'université au patrimoine. Alors, votre université a été fondée, écoutez bien, c'est réel, le 17 août 1220 par un légat du pape. Vous représentez aujourd'hui la plus ancienne université de médecine au monde. C'est vrai ça ?
Et bien sûr, nous sommes, donc, comme vous venez de le dire, nous avons été fondés le 17 août 1220 par l'octroi de statut par le légat du pape, exactement symétrique de ce qui, 5 ans auparavant, a été fait à Paris pour les théologiens, là aussi par un légat du pape, et créant donc une université au sens médiéval du terme, c'est-à-dire une corporation de maîtres et d'étudiants autonomes, finalement, sous l'autorité à l'époque de l'Église. Bien sûr, les choses ont bien changé depuis, mais qui, donc, depuis 800 ans, a continué sans interruption à enseigner et à pratiquer la médecine.
Professeur Thierry Lavabre-Bertrand, on vous entend. Vous êtes à Montpellier, là, vous êtes au sein de l'université?
Oui.
Parce qu'il y a comme un petit écho, vous êtes où dans l'université?
Je suis un peu en dehors de l'université.
D'accord.
Mais
vous êtes en tout cas dans le campus.
Je suis sur Montpellier, oui, bien sûr.
Alors, 800 ans d'histoire. Au début, il s'agissait de médecins et d'étudiants. Donc, oui. C'était une université de médecine pure. En 1289, oui. Le pape, il est quand même très avant-gardiste, hein, il essaye de fusionner, vous voyez, Sylvie Retailleau, déjà on parlait de fusion en 1289, il essaye de fusionner médecine, droit et art, mais les médecins restent à part jusqu'à la Révolution. C'est pendant la Renaissance qu'il commence à se passer des choses chez vous.
Alors en fait, il se passe des choses d'emblée, hein, c'est-à-dire que effectivement, comme vous le dites, en 1289, le pape va essayer, mais en fait ça a été un peu un échec, de fusionner les enseignements de médecine, qui étaient des enseignements officiels, les enseignements de droit, qui étaient un peu moins structurellement organisés, puisqu'on appelait les enseignements des arts, c'est-à-dire les arts libéraux, la grammaire, etc. Et en fait, les médecins vont décider de rester finalement entre eux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se replient, mais ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ont déjà une force de frappe suffisante pour attirer à eux, finalement, beaucoup de gens qui s'intéressent aux sciences en général, qui ont de près ou de loin des liens avec la médecine, et je pense notamment à toutes les sciences naturelles. Mmh. Et c'est tout à fait logique que ce pôle d'attraction médicale ait pu fédérer, par exemple, des botanistes, et en n'oubliant pas qu'en 1593, Henri IV va fonder le premier jardin botanique officiel de France, donc qui est plus ancien que celui de Paris, et qui est encore
au sein
en activité
de la faculté
aujourd'hui.
Au et
sein
avec
de la faculté,
surtout
dirigé
des
par
des
un
élèves
professeur
extrêmement renommés. J'ai lu que Rabelais s'y était inscrit en 1530.
Voilà, Rabelais est venu s'inscrire en médecine en 1530. Et après, il est au bout de quelques mois, enfin, il est reparti quelques temps sur Lyon. Il est repassé en 1537 pour passer finalement sa thèse. Il a été un des bout en train de la corporation étudiante. Et d'ailleurs, dans ses œuvres, on retrouve des traces de tout ce qu'il a fait sur Montpellier. Et il a été très très actif, bien sûr, dans le monde étudiantin de l'époque. Et aujourd'hui encore, en souvenir de cela, lorsque les étudiants passent leur thèse, ils revêtent ce qu'on appelle la robe de Rabelais, puisque nous avons quand même tenu à garder cette tradition avec des professeurs en toge et des étudiants qui revêtent donc une tenue traditionnelle, qui est la, dite la robe de Rabelais, dessinée d'après les costumes des étudiants de l'époque.
Alors, 800 ans après, le Covid est arrivé. Aujourd'hui, 49 000 étudiants au sein de votre faculté de médecine. Vous avez mis en place des assistants de prévention au sein de la fac de médecine. Très utile hein, depuis le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement ?
Oui, bah, c'est-à-dire que, en fait, du point de vue institutionnel, bon, l'université de médecine telle qu'elle était décrite jusqu'à la Révolution a subi après la Révolution toutes les vicissitudes statutaires qu'ont eu les enseignements, les structures d'enseignement supérieur. Donc ont été intégrées dans l'université impériale d'abord, et jusque dans les années 1870, il n'y aura que trois facultés de médecine de plein exercice en France, Paris, Strasbourg et Montpellier. Et puis aujourd'hui, donc, la faculté de médecine est une des composantes de l'université de Montpellier. Mais l'université de Montpellier regroupe aussi des enseignements de droit, de pharmacie,
bien sûr, là-bas
de science,
aussi,
etc.
On s'est regroupé. Sylvie Retailleau, je rappelle que vous êtes la présidente de l'université Paris-Saclay, invitée avec nous jusqu'à 14h. C'est formidable quand on entend ça.
C'est formidable.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La faculté de Montpellier, au niveau médecine, elle est connue effectivement du monde entier. C'est un exemple. Et ça crée l'histoire des transformations, effectivement, des facultés, des universités. Et à travers ce magnifique exemple, on voit bien toute cette histoire, finalement, et cette diversité. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, qui est très vrai. Je vois cette évolution. C'est qu'effectivement, à l'époque, médecine, biologie, c'est ce qu'on... Aujourd'hui, l'interdisciplinarité. Mmh. Et c'est vrai que je vois dans les 20 dernières années, et la médecine en est un merveilleux exemple, du travail avec l'ensemble des disciplines, l'intelligence artificielle, l'informatique, la physique et les sciences humaines et sociales. Et c'est vraiment cette évolution de la science, je crois, que l'on voit au travers de ces transformations.
En tout cas, vous restez avec nous. On est très heureux comme ça d'avoir pu regarder comment les universités sont en train de se réinventer, tous en s'inscrivant dans l'histoire. C'était le formidable message que nous a délivré depuis Marseille le professeur Thierry Lavadre-Bertrand, qui était depuis Montpellier. Bah oui, bien évidemment, je voulais aller au sud, mais encore plus à l'est. Mais non, le professeur Thierry Lavadre-Bertrand, qui était donc notre invité de l'université de Montpellier.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est toujours avec Sylvie Retailleau, la présidente de l'université Paris-Saclay. C'est parti pour l'un des temps forts de cette émission, les trophées Europe 1. Ils et elles osent, et on les écoute chaque jour dans cette France bouge. Et aujourd'hui, le pitch, Elisabeth, porte sur une gourde éco-responsable.
Et oui, avec vous. Bonjour Étienne Courtois.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de ECOB, alors je vais appeler, ECOB. C'est une gourde recyclée. Pour celles et ceux qui nous suivent sur europe1.fr, vous pouvez l'admirer. Elle est très jolie esthétiquement, vraiment c'est une belle gourde. Vous allez nous la décrire. Pourquoi cette gourde ? Que signifie ECOB ? Eh bien c'est parti, vous avez 1 minute 30.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'aventure entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé avec mon petit frère Valentin. Il y a un an, on a fait deux grands constats. Le premier, c'est qu'en France, on consomme 25 millions de bouteilles plastiques par jour. Le deuxième, c'est que 100% des gourdes en inox sont fabriquées en Chine. Du coup, on trouvait ça un peu dommage et on s'est dit qu'on devrait proposer un produit qui reprendrait trois points principaux. Le premier, c'est l'originalité, avec un produit qu'on aurait dessiné nous-mêmes et produit nous-mêmes. Le deuxième, c'est l'aspect sanitaire, c'est-à-dire on veut proposer quelque chose de 100% sain pour l'homme. Et le troisième, c'est l'aspect écologique, où on veut maîtriser la chaîne de production pour proposer un impact carbone le plus faible possible. Après des mois et des mois de travail, le projet ECOB est né. ECOB, c'est la première gourde en verre recyclée au monde. Elle est ambrée, légèrement conique, habillée d'une housse en tissu de liège et d'un bouchon en bois. On a choisi le verre parce que c'est une matière inerte qui n'échange aucune particule avec l'eau. Nous, on propose un projet très simple pour répondre à un besoin très simple, celui de boire. Mais ce qu'on veut, c'est vous proposer le meilleur produit possible avec une durabilité qui durerait toute votre vie, une production proche de chez nous et surtout un style qui déchire. Alors si ça vous plaît, rejoignez ECOB pour un peu d'amour et d'eau fraîche.
Bravo. Déjà,
merci.
Le pitch à Étienne Courtois,
très
parce
bien.
Que tout
très
le monde
clair.
N'arrive pas à être aussi clair que vous et précis dans ce pitch. Alors déjà, Sylvie Retailleau, là, on va aller mettre la casquette un peu de coach. Et qu'est-ce que vous dites de ce projet ?
J'achète. Donc, J'achète doublement parce que d'abord, c'est porté par des jeunes et qui, je dirais, s'investissent, essayent de proposer, sont force de proposition. Donc, c'est vraiment aujourd'hui cet esprit d'entrepreneuriat aussi qu'on essaye de cultiver au niveau des universités. Et je dirais aussi de sortie d'employabilité à tous les niveaux, bac plus 3, bac plus 5, avec un lien qu'on doit garder aux formations tout au long de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on porte, cet esprit d'entrepreneuriat, d'oser. Et puis, vraiment, dans des valeurs que l'on partage, valeurs sur l'environnement, le développement soutenable. Je crois qu'aujourd'hui, bon, évidemment, il y a le contexte Covid qui fait que, mais clairement, on le porte. Je pense qu'on a aussi dans les universités pour faire des étudiants citoyens et responsables. Et on va, nous, avoir un projet de ne plus avoir de bouteilles plastiques. On débarre là, on achète des carafes et en rentrant, je vais peut-être dire d'acheter la gourde.
Ça peut être pas mal de faire un projet avec les universités.
Exactement, ouais. On démarre ça.
Alors justement, moi j'ai peut-être un delta. Vous avez oublié de donner le prix. Et oui. Justement, quand Sylvie Retailleau va retourner à Paris-Saclay et qu'elle va dire que ça vaut 33 euros la gourde, je ne suis pas sûr qu'elle va dire à son conseil d'administration « J'ai assez de sous !»
Oui, mais pour 48 000 étudiants, vous allez lui faire un prix.
Oui, on peut faire très bien un prix ou on peut juste encourager les étudiants à se fournir eux-mêmes. Après, c'est le choix de chacun de se dire « Je veux investir dans un produit qui est fait proche de chez nous, qui va durer pour toute une vie. » Ou pas, c'est une question de budget, c'est une question d'envie, on se retrouve dans les valeurs ou non. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde qui achète notre gourde, juste ceux à qui ça plaît. Et si c'est le cas pour les universités, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais en tout cas, nous, on est contents de ce qu'on fait et on le fait à fond.
Alors nous, on a adoré votre gourde. La seule chose, c'est que bon, la bouteille est fabriquée au nord de l'Italie. Le contour en liège est fait au Portugal. Vous n'avez trouvé personne en France ?
Alors en fait, la France est le pays numéro un en termes de production de bouteilles en verre en Europe, avec 19 milliards. Le problème, c'est que les minimums de commandes quand on commence à industrialiser un produit sont de 250 000 bouteilles par an. Et aucun partenaire industriel n'a souhaité travailler avec nous parce qu'ils nous ont dit « c'est trop gros, ça va être trop gros pour vous ». Il faut aller voir du côté de l'Italie, qui sont eux spécialisés dans les petites et moyennes séries, pour démarrer votre activité.
Ce sera peut-être la suite, ce sera peut-être la prochaine étape. Alors en termes d'étape, vous avez fait une première campagne Ulule en juillet, elle a cartonné, vous avez dépassé l'objectif.
Oui, on était plutôt très contents, oui.
Et donc début octobre, commercialisation, on va vous trouver où ?
Alors vous nous retrouverez sur notre site internet ecob.fr et dans quelques magasins de distribution au petit local à Strasbourg, à Colmar et à Wattwiller.
Parce que vous venez de l'Est, on avait oublié de le préciser, et que vous avez 25 ans. Bravo.
Exactement.
Et ça s'appelle Ecob, merci à vous Étienne Courtois.
Merci
N'hésitez
beaucoup.
Pas à nous donner de vos nouvelles, on aime bien savoir ce que sont devenus nos jeunes entrepreneurs.
Et vous, si vous avez un projet là, vous êtes en train de nous écouter à la radio, vous dites « mais moi aussi je veux venir ». C'est simple, vous nous écrivez e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, dernière partie de votre émission. Demain, au travail, nous sommes toujours avec notre... Moi, je l'appelle la grande patronne du jour.
Mais vous avez raison.
C'est la présidente de l'Université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau. Et nous sommes aussi avec Hervé Mongin. Bonjour.
Bonjour, Hervé Mongeotin.
Mongeotin, pardonnez-moi.
Je vous en prie.
Mais il n'y a pas de mal, on va essayer de s'améliorer pour la suite de l'interview avec Elisabeth. Vous êtes le président de Socotec. Socotec, c'est une entreprise spécialisée dans la gestion des risques liés aux bâtiments. Et vous venez de mettre en place une innovation pour recruter, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, les décrocheurs, c'est-à-dire notamment tous ces jeunes qui sont en rupture scolaire ou même un peu moins jeunes, mais qui sont loin du marché de l'emploi. Vous avez recruté votre première promo, si je peux dire, le 26 juin. Racontez-nous ce que vous avez mis en place pour réussir à aller chercher ces public si difficile.
Très bien, merci. Donc Socotec, effectivement, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, 9000 collaborateurs, la moitié en France, une société en croissance. Alors cette initiative, on l'a appelée rebond favorable, donc ça consiste à aller chercher des jeunes généralement en situation de décrochage scolaire, généralement dans des banlieues dites difficiles, et de les rejoindre pour se former à nos métiers durant une formation de 9 mois avec un mix d'apprentissage académique et puis de travail opérationnel avec des tuteurs. La promesse qu'on leur fait, c'est fondamentalement de leur donner un métier et un CDI à l'issue de cette période dans l'une des 150 agences de Socotec. Donc c'est une ambition forte. La première promo de 15 jeunes a démarré fin juin et notre ambition, c'est de réussir à embarquer entre guillemets 60 jeunes dans cette aventure qui est aussi une aventure pour les managers de Socotec.
Alors vraiment Jotin, en plus aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre et c'est la grande rentrée de promo parce qu'ils ont en plus leurs parrains et ils auront une formation sur notamment, et ça c'est important, toutes les entreprises ne le font pas, c'est à souligner, les droits et les devoirs en entreprise. C'est quoi ?
Alors les droits et les devoirs, c'est montrer et faire toucher du doigt à des jeunes qui sont loin de l'entreprise, parce que leur environnement familial peut être loin de l'entreprise. Alors, dire une entreprise, c'est un lieu de vie, un lieu de vie collective, et où il faut qu'on se comporte d'une certaine manière qui n'est pas forcément celle à laquelle ils sont habitués dans leur vie quotidienne. Donc c'est leur faire toucher du doigt tout ce qui relève du savoir, savoir-être,
savoir-vivre,
et qui est fondamental en entreprise. Vous voyez, quand je suis allé les voir il y a fin juin, parce que ça m'a coûté quelque chose, je suis de près, je suis venu volontairement en costume cravate en leur disant, vous voyez, ça c'est ma tenue de travail en tant que patron de Socotec. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps habillé comme ça, mais c'est simplement pour partager avec eux le fait que être au travail suppose des postures qui sont spécifiques.
Et ça, juste c'est d'un mot, ce qui est important pour vous, c'est de le développer. Vous voulez créer vraiment d'un mot un CFA pour l'apprentissage?
Oui, absolument. Alors cette initiative Rebond Favorable, elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui est l'apprentissage chez Socotec. On va avoir 220 apprentis cette année, on recrute 1000 personnes au total, et ça va déboucher sur un CFA d'entreprise qui sera opérationnel fin septembre. Donc nous, on croit beaucoup à l'apprentissage. En fait, on fait deux paris. Un pari sur l'activité. On croit, nous, à l'activité, et on considère que c'est notre rôle, chef d'entreprise, que d'aller chercher l'activité dans cette période un peu bizarre qu'on traverse. Et puis, on croit à l'apprentissage, au compagnonnage, avec tout ce que ça a de bénéfique, et pour l'entreprise et pour notre pays. C'est les deux paris que nous faisons à travers Rebond Favorable.
Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup Sylvie Retailleau, patronne de l'Université Paris-Saclay. On n'a pas eu le temps encore de parler du plan de relance qui a été annoncé. Un des grands pans de ce plan de relance, c'est la rénovation des bâtiments publics. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a dit encore ce week-end sur Europe 1, les premiers dossiers seront les mieux servis, il faut aller très vite. Vous avez besoin et vous êtes prêts ?
On a besoin, on est prêt. Donc c'est sûr que le patrimoine, les bâtiments patrimoine des universités ont besoin vraiment d'une rénovation, et en particulier rénovation thermique, puisque c'est vraiment la caractéristique du plan de relance qui fait partie de notre responsabilité environnementale. Et on va postuler.
Eh bien, un grand merci. On remercie également Hervé Mojotin, le patron de Socotec, qui recrute donc des apprentis en décrochage. Un grand merci également à Sylvie Retailleau qui nous a accompagnés pendant toute cette émission.
Merci.
On était très heureux avec Elisabeth de mettre
Merci à la une,
l'Université de Paris-Saclay.
Et on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Emmanuel ?
Eh bien, on va parler de la rentrée littéraire. On sera avec le patron de la maison d'édition Stock. Très bon après-midi sur Europe 1.
À demain. Tout de suite, les infos avec Christophe Lamarre. Et juste après, Christophe Ondelatte.